La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour. Liturgie et contemplation, c'est l'occasion autour de ce carême de revoir avec Jacques et Raïssa Baritain comment l'horizon peut être un chemin. L'horizon est un chemin qui permet une unité entre la foi, la pratique et l'intelligence. Pour Baritain, la philosophie est une sagesse. C'est très difficile à comprendre dans une perspective de philosophie post-cartésienne où le cartésianisme va calquer la philosophie sur la science expérimentale, sur la physique, sur la géométrie. Mais c'est une manière de comprendre qui fait droit à tout l'être humain. Jacques écrit « La suprême sagesse et la suprême contemplation ne sont plus le sommet de la science de l'homme et de sa philosophie, mais l'abîme en lui du don de l'esprit incréé, lui faisant pâtir dans la foi, par la charité et l'union d'amour, cela même que nul effort de l'intelligence humaine ne peut circonscrire, et les choses de Dieu connues comme inconnues. La notion même de contemplation change de sens parce qu'elle désigne désormais une expérience où l'amour instruit l'intellect et une communion à travers le voile avec la vérité, la vie et la bonté subsistante qui est l'œuvre de la charité sous la touche même de Dieu. » Vous avez peut-être noté ce mot. La notion même de contemplation change de sens. Et vous avez ici le principe d'analogie dans toute sa splendeur. Le principe d'analogie, ce n'est pas simplement une analogie de rapport, c'est-à-dire 2 sur 2 égale, mettons, 12 sur 6. Non, c'est bien plus que cela, parce que dans l'analogie de rapport, il y a quelque chose de géométrique. Une analogie de proportion permet de changer le sens du mot. La santé, par exemple, on dira d'un corps sain, qu'il est en bonne santé, et puis on dira d'une situation qu'elle est saine. Ce n'est pas tout à fait le même sens du mot. Et c'est ce principe d'analogie qui permet à Baritain d'articuler toute sa philosophie. Eh bien, il le trouve déjà dans une réflexion sur ce qu'est la contemplation. Vous avez noté autre chose dans cet extrait, qui est tiré de la philosophie morale, œuvre majeure de 1960, c'est connaître, circonscrire Dieu connu comme inconnu. On a souvent opposé l'Orient et l'Occident autour de la théologie apophatique ou cataphatique. Et on a opposé finalement l'Orient comme celui qui garderait le mystère de Dieu, alors que l'Occident serait prétentieux dans sa manière de vouloir connaître Dieu par le concept. Faux. Le concept est un signe formel qui ne va jamais dire ce qu'on ne sait pas de Dieu. Il atteint jusqu'à la limite à laquelle on ne peut plus connaître Dieu et ensuite c'est donné dans la contemplation, dans l'horizon. Et c'est important de faire ces deux remarques qui nous permettent de souder le contemplatif qu'est Jacques Baritain au philosophe. Et en ce sens, la vie de Jacques, Raïssa et de Vera est un véritable creuset pour comprendre la philosophie de Jacques.
Je pense qu'on peut prendre justement comme exemple la vie des Baritain. Leur vie a été abreuvés de l'art. Quand on connaît un peu leur histoire, ils ont eu de très grandes épreuves depuis le début, je dirais. La croix a été fortement plantée dans leur vie. Et néanmoins, pour le chrétien et pour les Baritains qui étaient de grands chrétiens, l'aventure humaine ne peut pas être une tragédie. Elle est dramatique parce que elle est sans cesse faite de rebondissements entre la grâce de Dieu et la liberté de l'homme, mais elle n'est pas tragique parce qu'elle n'aboutit pas à une perte, à une damnation, mais à un salut et à un Dieu sauveur qui nous conduit vers un bonheur éternel.
Comment peut-on passer de la souffrance, de la croix, au salut, au bonheur éternel ? Par l'horizon, mais surtout par un contexte, une sorte de biotope qui facilite l'horizon, et ce biotope, ce sont les moyens pauvres. Plus on s'approche du pur spirituel, plus les moyens temporels employés à son service s'amenuisent eux-mêmes. Et c'est la condition de leur efficacité. Trop ténus pour être arrêtés par un obstacle, ils atteignent là où n'atteignent pas les plus puissants équipements. À cause de leur pureté, ils traversent le monde d'un extrême à l'autre. N'étant pas ordonnés à réussir tangiblement, ne comportant pas dans leur essence une exigence interne de succès temporel, ils participent, pour les effets spirituels à atteindre, à l'efficacité de l'esprit. Ainsi, les moyens temporels pauvres sont un biotope pour l'horizon, mais aussi pour la création artistique. Quand Rembrandt peignait, quand Mozart, quand Satie ont composé leurs œuvres, quand saint Thomas a écrit la Somme et Dante la Divine Comédie, quand l'auteur de l'Imitation a écrit son livre, quand saint Paul a écrit ses épîtres, quand Platon et Aristote parlaient à leurs disciples, quand Homère chantait, quand David chantait, quand les prophètes prophétisaient, c'était là des moyens temporels pauvres. À la limite, considérons l'homme spirituel par excellence. Quels étaient les moyens temporels de la sagesse incarnée? Il a prêché par les bourgades. Il n'a pas écrit de livre. C'était encore un moyen d'action trop chargé de matière. Il n'a pas fondé de journaux ni de revues. Il a eu pour seule arme la pauvreté de la prédication. Il ne préparait pas de discours ni de conférences. Il ouvrait la bouche et la clameur de la sagesse, la fraîcheur du ciel passait sur les cœurs. Quelle liberté! S'il avait voulu convertir le monde par les grands moyens de puissance, par des moyens temporels riches, par les méthodes américaines, quoi de plus facile? Quelqu'un ne lui offrirait-il pas tous les royaumes de la terre? Quelle occasion d'apostolat! On ne retrouvera jamais l'appareil. Il l'a refusé. Le monde périt de lourdeur. Il ne rajeunira que par la pauvreté de l'esprit. C'est pour nous fondamental, à l'heure d'une pandémie qui nous oblige à revoir nos conditions économiques, nos rapports à la richesse, au luxe, au superflu, à la technique. Le moyen pauvre, ici, c'est simplement ouvrir la bouche pour le Christ. Même pas un livre, même pas un écrit. Le moyen pauvre est celui de l'horizon. Alors revenons en arrière dans cet écrit intitulé « Liturgie et contemplation » dans lequel Jacques et Raïssa Maritain font la différence entre la vertu de religion et les vertus théologales pour vraiment distinguer la nouveauté, l'apport, la spécificité de l'horizon. Maritain s'interroge sur la participation au culte liturgique pour éviter qu'elle ne soit que formelle. Dire que la simple participation au culte liturgique, si attentive et si exacte qu'on la suppose, porte la vie spirituelle à un degré plus élevé que la contemplation infuse et dispense par conséquent de toute aspiration et préparation à celle-ci, serait renverser l'ordre des choses et faire passer une vertu morale, la vertu de religion, au-dessus des vertus théologales et des dons du Saint-Esprit. D'une part, en effet, la contemplation infuse relève essentiellement des vertus théologales et des dons du Saint-Esprit, et est leur commune opération elle-même, par laquelle l'âme, portée à un mode d'agir suprahumain, est jointe à Dieu et entre dans les profondeurs de Dieu. D'autre part, le culte et la liturgie relèvent essentiellement de la vertu de religion, et celle-ci, comme saint Thomas l'enseigne, ayant pour objet non pas directement Dieu lui-même, mais quelque chose à faire, certains actes à accomplir au sujet de Dieu et pour honorer Dieu, n'est pas une vertu théologale. Elle est une vertu morale, si éminente qu'elle soit, et elle reste donc inférieure aux vertus théologales et aux dons du Saint-Esprit. Ainsi, le culte liturgique est en soi une fin d'une dignité éminente, et il y a pourtant une fin plus haute, à laquelle et au désir de laquelle il doit normalement disposer les âmes. Il implique l'exercice des vertus théologales, il vit de la foi, de l'espérance et de la charité, qui cause et impère les actes de religion. Mais de soi, Il est une œuvre, l'œuvre la plus noble, la plus resplendissante et la plus sainte de cette vertu morale qu'est la vertu de religion. Et il demande de ceux qui y prennent part qu'ils montent autant qu'ils le peuvent vers ce sommet où les vertus théologales produisent, sous l'inspiration du Saint-Esprit, un acte intérieur qui dépasse toute opération de l'être humain extérieurement manifestée, en particulier celles qui traduisent par le geste et la voix notre union avec la communauté des fidèles. Page absolument exemplaire que vous pouvez relire dans le tome 14 des œuvres complètes de Jacques et Raissa Maritain ou dans l'opuscule Liturgie et Contemplation qui est tiré à part. Pour revenir avec le père Jean-Miguel Garry que nous écoutions sur la vie des Maritains, leur témoignage est fondamental. Par exemple, quand on va à Princeton, leur maison est tout imprégnée de la Trinité. Sur la façade, on a trois arcades et on a l'impression que même dans l'architecture d'une simple maison de lotissement, ou presque, il y a cette inscription théologale des trois vertus et cet hommage permanent à la Trinité.
Thank you.
philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Les fugues de Jean-Sébastien Bach, surtout si bien interprétées par Blandine Verlet, nous permettent de comprendre combien un saint, un théologien, un artiste peuvent transcender leurs propres époques. Et dans Liturgie et Contemplation, Jacques Maritain va mettre en garde les lecteurs et les fidèles contre des erreurs qui pourraient éloigner ou dissuader de mener la vie d'oraison, en particulier celle de l'inscription dans l'histoire, c'est-à-dire de la prédominance du paramètre conditionnant sur le plan du facteur déterminant. Et Maritain écrit ainsi: il est un dernier argument auquel ceux qui voudraient rejeter l'autorité de Saint Jean de la Croix et de Sainte Thérèse ont volontiers recours. Il est tiré de la diversité des âges de l'histoire. Sainte Thérèse et Saint Jean de la Croix, dit-on, ont été des saints de l'âge réflexe, c'est-à-dire de la Renaissance. Ils avaient probablement à écrire comme ils l'ont fait, étant donné leur époque historique. Cela était probablement bon pour cet âge de l'histoire, mais cela ne vaut rien pour le nôtre, qui n'a que trop souffert de l'introspection individuelle et dont le besoin essentiel est d'ordre social et communautaire. Un tel raisonnement souffre de bien des erreurs. L'erreur fondamentale est d'oublier que s'il y a dans la vie spirituelle un développement et des modalités qui sont liées au mouvement de l'histoire, la substance de cette vie, elle, ne relève ni du temps ni de l'histoire, mais de vérité supratemporelle. Comment ne voit-on pas que c'est essentiellement la même doctrine qui, enseignée au XVIe siècle par Saint Jean de la Croix dans la perspective de la science pratique de la vie spirituelle, était enseignée au XIIIe siècle par Saint Thomas d'Aquin et Saint Bonaventure dans la perspective de la théologie? Comment oublie-t-on les enseignements des pères et ceux des docteurs du Moyen-Âge sur la primauté de la contemplation, dont nous avons marqué plus haut la décisive importance? Et comment oublie-t-on la mystérieuse continuité par où, dans la vive flamme d'amour de Saint Jean de la Croix, la ténèbre de Saint Grégoire de Nice reconnaît finalement sa vraie nature? Je crois qu'on a ici un moment très important contre le relativisme. Le relativisme qui dit que à tel temps d'histoire correspond telle philosophie, telle sagesse ou telle liturgie, ne peut être qu'une illusion qui donne priorité à ce paramètre du facteur conditionnant. Parmi les idées fausses, Maritain pointe aussi celle de la valeur du silence contre l'état d'esprit pseudo-liturgiste. Il convient de défendre les droits et la dignité du silence. Dans certaines paroisses où a pénétré cet état d'esprit, bien des fidèles se plaignent qu'en entrant à l'église pour s'y recueillir, ils soient assourdis par le bruit. Il est certain que la messe dite dialoguée est une conquête du renouveau liturgique en son sens le plus authentique. Elle se montre d'une assistance incomparable pour la piété de beaucoup, encore faut-il que la voix humaine y soit humble, discrète et priante. Si d'autre part, la messe solennelle est évidemment la forme la plus noble et la plus plénière de la célébration du Saint Sacrifice, ce serait folie cependant de prétendre condamner pour cela les messes basses, ces messes basses de l'aurore où descend sur l'âme en silence avec une douceur inégalée la rosée des fêtes et commémorations de chaque jour. À l'égard de la participation à la vie liturgique de l'Église, et bien que l'expression « participation active » ait pratiquement pris le sens de participation extérieurement manifestée, il importe de remarquer ici qu'écouter, soit de l'oreille, soit du cœur, est du point de vue philosophique aussi actif que parler. Voilà des repères qui peuvent nous permettre de comprendre pourquoi la vie théologale reste le fondement, j'allais dire la base et le sommet de la vie chrétienne. Ainsi, Jacques et Raissa Maritain peuvent mettre en place ce qu'ils appellent la contemplation sur les chemins. En vérité, la contemplation n'est pas donnée seulement aux chartreux, aux clarisses, aux carmélites. Elle est fréquemment le trésor de personnes cachées au monde, connues seulement de quelques-uns, de leurs directeurs, de quelques amis. C'est de cela que notre époque a à prendre conscience, et des voies par lesquelles la contemplation se communique de par le monde, sous une forme ou une autre, à la grande multitude des âmes qui ont soif d'elle. Le grand besoin de notre âge, en ce qui concerne la vie spirituelle, est de mettre la contemplation sur les chemins. Il convient de marquer ici l'importance du témoignage et de la mission de Sainte Thérèse de Lisieux. Il serait vain de chercher une opposition entre elle et Saint Jean de la Croix, qu'elle appelait le saint de l'amour par excellence. C'est en substance la même spiritualité, mais tout y a subi une prodigieuse réduction à l'essentiel. Non seulement toutes les grâces extraordinaires auxquelles Saint Jean de la Croix interdit à l'âme d'aspirer et de s'attacher, mais tous les grands signes typiques, terribles ou resplendissants, qui manifestaient dans son expérience à lui les étapes traversées par l'âme avançant dans la voie de l'union, ont maintenant disparu. Il n'y a plus, chez Sainte Thérèse de Lisieux, dans une limpidité incroyablement pure, que l'amour total, le don total et le dépouillement total de soi. C'est une grande voie en vérité que la petite voie est héroïque, mais qui cache rigoureusement sa grandeur sous une absolue simplicité, héroïque elle-même. Pour le philosophe, que dire ? Qu'en est-il de ce lien à la vie contemplative ? Je vais choisir un texte qui est tiré de Science et Sagesse, écrit en 1935, où Jacques Maritain commente un passage de saint Thomas d'Aquin. Il est temps de nommer par son nom la loi de ce mouvement. C'est la loi de l'incarnation. Saint Thomas la formule dans un texte qui ne vaut pas seulement pour le chef, mais pour le corps tout entier. Dans le mystère de l'incarnation, le mouvement de descente de la divine plénitude dans les profondeurs de la nature humaine importe plus que le mouvement d'ascension de la nature humaine vers Dieu. Maritain commente ainsi. Il y a ainsi un double mouvement dans l'univers chrétien, et celui par lequel il monte vers Dieu n'est qu'une suite de celui par lequel Dieu descend en lui et qui est premier. Et plus il s'ouvre à ce mouvement par où Dieu se donne, plus s'éveille en lui le mouvement par où il se donne à Dieu. Car la grâce vivifie et n'est pas, comme le pensait Luther, un manteau jeté sur un mort. Activée dans ses profondeurs, la créature sort du sommeil, elle devient tout entière vigilance et activité. Au terme, activité par excellence, activité d'amour et de contemplation et de surabondance, mais aussi, et pour y conduire, activité morale et ascétique, pratique et militante. Est-ce là le motif le plus profond du dynamisme historique qui distingue si curieusement l'Occident chrétien et de cette énergie efficiente qui, lorsqu'elle a renié son principe et son régulateur suprême, n'a pu que s'affoler et saccager l'être humain ? En tout cas, lorsque l'homme a cru que ce mouvement second était le mouvement premier, lorsque dans l'âge de l'humanisme anthropocentrique, c'est-à-dire la Renaissance, qui est un pélagianisme en action, il a oublié que Dieu a la première initiative de l'amour, comme du bien, comme de l'être, et a fait comme si le progrès de la créature avait le pas sur la descente, le monde chrétien, travaillé par le triple ferment de la Renaissance, du rationalisme et de son contraire janséniste ou protestant, lequel, en annihilant l'homme du côté des choses divines, l'exaltait pour autant du côté des biens terrestres, le monde chrétien devait inévitablement se dissoudre. Un christianisme décoratif, conclut Maritain, ne suffit plus désormais. Un christianisme vivant est nécessaire au monde. La foi doit être une foi réelle, pratique, existentielle. Croire en Dieu doit signifier vivre de telle manière comme on ne pourrait pas vivre ainsi si Dieu n'existait pas. Et je vous laisse sur cette dernière citation de Raison et Raison. À la semaine prochaine.